Maximilien Dermark, troisième week-end pour le Festival d'Opéra Baroque de Beaune. Et nous voici avec La Palatine et pour l'occasion, nous retournons au théâtre.
Cet opéra complètement inconnu qui s'appelle donc Nicandro et Philéno, c'est un opéra assez court et assez drôle, assez vif. Alors là, ça ne sera pas vraiment mis en scène, mais cette troupe, il y a six chanteurs et puis pas mal de musiciens, et c'est vraiment une troupe très jeune et très inventive, et donc ils nous proposeront un opéra, en tout cas chanté par cœur et mis en espace, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire avec une action vraiment lisible et compréhensible par le spectateur. Et donc voilà, ça nous paraissait plus évident au théâtre que dans la cour des hospices, qui n'est pas forcément adaptée pour ça. On est content de cette redécouverte. C'est aussi le rôle du festival de redonner vie à des pans importants mais oubliés. Et là, c'est vraiment important parce que c'est d'un point de vue musicologique, mais c'est vraiment le rôle de la musique italienne en France. Et là, c'est vraiment un compositeur italien qui vient tester, qui a déjà un grand succès en Italie, et qui vient se jauger en France. Et il donne à Fontainebleau cet opéra assez un peu miniature, mais quand même avec six chanteurs, donc c'est important, qui est vraiment d'une écriture magnifique. Il y a à la fois des scènes comiques, il y a à la fois des grandes scènes très émouvantes. Et puis Guillaume Aldenvang et Marie Théolaire, là, qui co-dirigent cet ensemble, ont aussi associé, là il y aura des extraits de parce qu'on a perdu l'ouverture de cet opéra, donc pour remplacer l'ouverture, on mettra de la musique de Delalande, qui est un compositeur français pour le coup, mais qui avait travaillé avec Lorenzani sur plusieurs œuvres qui sont perdues aujourd'hui. Mais donc voilà, on retisse des liens entre compositeurs italiens et compositeurs français à la cour. Et voilà, c'est tout un monde qui avait été un peu mis sous le boisseau par l'importance de lui à cette époque-là, qui a fait oublier un peu tout ce qui se passait en même temps.
La Palatine au théâtre, un spectacle qui n'était pas destiné à la cour des hospices, vous l'avez dit, mais nous voici dans la cour des hospices.
C'est vraiment le samedi soir dans la cour des hospices. Et là, c'est un opéra qui s'appelle l'Olympiade de Pergolèse. Alors voilà, les personnes très attentives connaissent plutôt l'Olympiade de Vivaldi. Alors, en fait, l'Olympiade, donc l'Olympiade, hein, c'est un opéra sur les Jeux Olympiques.
Et de Pergolèse, ils n'ont souvent retenu que le Stabat Mater.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ce livret, qui est le livret d'un écrivain qui s'appelait, d'un auteur qui s'appelait Métastase, qui était le grand librettiste du 18e, en fait, a donné lieu à un nombre, comme souvent, à un nombre d'opéras sur le même livret, absolument invraisemblable. Je pense qu'il y en a au moins une vingtaine sur l'Olympiade. Et donc les deux plus connus, ce sont ceux de Pergolèse et celui de Vivaldi. Et en fait, celui de Pergolèse était beaucoup plus connu que celui de Vivaldi à l'époque. C'est un opéra qui a fait le tour d'Europe, qui a été donné dans tous les théâtres, dans toutes les cours. On en a pour preuve que les partitions qu'on retrouve de l'Olympiade sont absolues. Il y en a au moins une vingtaine dans les bibliothèques de toute l'Europe, jusqu'en Suède. Donc, ce qui veut dire que l'opéra avait été donné un peu partout. Et en fait, on comprend pourquoi. C'est vraiment une œuvre. Alors, c'est un opéra seria, c'est-à-dire un opéra sérieux, mais qui est en même temps très drôle. C'est un peu sa particularité. Il y a plein de moments extrêmement très drôles. Et donc, évidemment, c'est le schéma classique des opéras de cette époque-là, des opéras de Handel, des opéras de Vivaldi, des opéras de Pergolèse. Donc, un enchaînement d'air, de récitatifs, d'air. Mais absolument pas ennuyeux et très virtuose. C'était un opéra écrit à l'époque pour six castrats, que ce soit derrière des personnages d'hommes ou des personnages de femmes. Alors aujourd'hui, on n'a plus de castrats et puis on n'aura d'ailleurs même pas de contre-ténor. Ce sera vraiment une distribution de femmes, de mezzo et soprano, mais très virtuose. Et on est très content d'accueillir une chanteuse italienne formidable qui s'appelle Anna Bonita Tibus, qui est un peu une star, qui est en tout cas le tempérament d'une star, parce qu'elle est extrêmement charismatique. Un peu diva, il faut le dire, mais c'est évidemment ce qu'on aime pour cette musique très brillante, et qui est donc donnée par un chef italien qui s'appelle Giulio Prandi, qui la défend particulièrement bien.
Thank you. Je ne pense pas qu'on puisse parler de diva à propos d'Emmanuel Haïm, mais voici le Stabat Mater, un Stabat Mater justement, avec le concert d'Astray, ce sera pour le dimanche.
Évidemment, moi j'essaye aussi de faire des ponts entre les concerts, et donc là ça en est un, entre deux œuvres de Pergolèse, une évidemment, dont vous venez de parler, le Stabat Mater, qui est sans doute l'œuvre la plus connue du répertoire baroque, peut-être même. Et puis cette Olympiade qui est pour le coup est beaucoup moins connue. Donc j'appelle nos festivaliers et les nouveaux festivaliers à venir écouter les deux en regard pour voir un peu ce qu'un compositeur, je le rappelle, de 25 ans ou 26 ans, et qui va mourir juste ensuite, est capable de faire. Et donc évidemment, ce Stabat Mater, qui est un chef-d'œuvre qu'on est content de redécouvrir. C'est pareil, il n'a pas été donné depuis assez longtemps à Beaune. Et on est content de retrouver Emmanuel Haïm. Alors c'est vraiment un événement pour nous, parce que Emmanuel Haïm a vraiment commencé, alors non pas à faire de la musique à Beaune, mais a commencé avec son ensemble, le Concert d'Astray. C'était les tout premiers concerts du Concert d'Astray en 2001. Elle était venue plusieurs années ensuite, et puis après, évidemment, sa carrière qui a décollé très vite l'a laissée un peu plus loin de Beaune. Et donc, 25 ans plus tard, on va fêter les 25 ans de son ensemble et son retour à Beaune. Et donc, on est très fiers parce que voilà, Emmanuel Haïm, évidemment, parcourt le monde aujourd'hui. Et donc, l'a retrouvé à Beaune, en plus avec deux chanteurs assez exceptionnels que sont Carlo Vistoli, qui était venu il y a 2 ans, un contre-ténor italien, et puis la soprano d'origine russe, Yulia Lechneva, qui est sans doute aujourd'hui la soprano coloratour la plus virtuose de la musique ancienne.